Chapitre 29. Le corbeau et le renard. Ce même jour, vers 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire à peu près vers le moment où, après cette scène dramatique, au cours de laquelle il s'était engagé à Marion de Lorme et avait déclaré la guerre à Richelieu, le marquis de Saint-Marc quittait l'hôtel des Trois Monarques. Vers ce moment, le chevalier de Capestan sortait, de son côté, de l'auberge du Grand Henri. Il marchait d'un pas impétueux, bousculant force passants, répondant d'un juron furieux aux réclamations, mâchonnant des imprécations et tourmentant la poignée de sa rapière. Il était fort pâle, en dépit du mouvement qu'il se donnait. Malgré la promesse qu'il avait faite à Marion Delorme dans la nuit, ce n'était pas aux Trois Monarques qu'il se rendait ainsi, furieux ou désespéré. La veille au soir, Cogolin ayant remis à son maître sa dernière pistole, en lui conseillant d'aller la jouer au tripot de la rue des Ursins, Cogolin demeurait seul et persuadé que le chevalier ne rentrerait pas de la nuit, Cogolin, convaincu que toute nouvelle tentative sur maître Lureau échouerait fatalement, Cogolin qui avait faim et qui, par le plus logique des raisonnements, prétendait que puisqu'il avait faim et soif, il devait manger et boire, sortit sans bruit de l'auberge et, une fois sur la route, mouilla son index en le passant sur sa langue, puis ce doigt, il l'éleva en l'air. Ayant ainsi reconnu d'où venait le vent, Cogolin, qui n'avait aucune raison de se diriger à l'est plutôt qu'à l'ouest, au midi plutôt qu'au septentrion, ouvrit ses longues jambes et, tel un héron en quête, se porta du côté que lui indiquait le vent. Cogolin enfila donc les rues à mesure qu'elles se présentèrent, passa la Seine, alla, revint, tourna à droite, tourna à gauche, et cependant, les narines ouvertes à toutes les émanations, l'œil braqué sur toutes les rôtisseries, il faisait le guet. 9 heures sonnèrent, les cabarets et tavernes se fermèrent. Il faisait noir, il avait faim, il faisait soif. Cogolin, mortifié et sérieusement fâché, commençait à maugréer, lorsque, dans le rayon de lumière que projetait une boutique, il vit passer une silhouette majestueuse qui le fit tressaillir. Cogolin était doué d'une dose extraordinaire de cette mémoire spéciale qu'on appelle la reconnaissance de l'estomac. « Voilà, dit-il en tressaillant, une paire d'épaules avec lesquelles il me semble que je me suis déjà trouvé à table. Une attitude olympienne que j'ai admirée parmi des ragoûts, des rôtis et des fonds de bouteilles, dont le souvenir me fait pleurer de tendresse. Où était-ce ? Corbac. Comme le chevalier m'a défendu de jurer. Mais il n'est pas là. Corbac, donc, j'y suis. C'était aux Trois Monarques, le jour où M. de Capestan dîna avec M. de Saint-Marc. Les maîtres fraternisant, les laquais fraternisèrent. « Hola, mon cher monsieur !»« Comment donc, déjà ?»« Monsieur Lampion ?»« Monsieur Fallot ?»« J'y suis, monsieur Lanterne !» L'homme interpellé, qui n'était autre, en effet, que le laquais du marquis de Saint-Marc, se retourna d'un certain air de majesté naturelle et montra un visage rubicond, fleuri et vermeil, une vraie face de laquais de maison où l'on fait ses 4 repas par jour, sans compter les suppléments. Cogolin courba sa maigre échine et lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur de Lanterne, toujours même santé florissante, toujours même air seigneurial. Ah, cher monsieur de Lanterne, vous êtes sûrement le prince des laquais. Qui êtes-vous donc, monsieur, et comment se fait-il que vous me connaissiez ? Demanda Lanterne avec une visible bienveillance. Je le tiens, se dit Cogolin. « Et quoi, serait-il possible que vous ne reconnaissiez pas votre hôte, à qui vous fîtes manger de si bonnes choses provenant des fonds de plat de nos maîtres ? Ah, monsieur de Lanterne, quant à moi, je ne vous ai point oublié, et saurait-on d'ailleurs oublier un homme qui connaît les façons du grand monde et exerce l'hospitalité en vrai seigneur ?»« Monsieur Cogolin, je crois, » fit Lanterne avec cette condescendance qui ne va pas sans une pointe de dédain. « Lui-même, cher monsieur de Lanterne, lui-même est fier, je l'avoue, d'être reconnu d'un homme tel que vous. » « Mais, fit le laquais de Saint-Marc d'un ton d'étonnement et de modestie, pourquoi donc m'appelez-vous de Lanterne ?»« Eh quoi, me serais-je trompé ? Ne serait-ce point là votre nom ? » Lanterne avala sa salive avec effort et dit « Je m'appelle seulement Lanterne. »« Seulement ?» s'écria Cogolin avec l'accent de stupéfaction d'un homme qui eût appris que le roi ne s'appelait pas Bourbon. « Ma foi, pas plus tard que ce matin, je disais à mon maître « Il faut que monsieur le marquis de Saint-Mars soit de bien haute noblesse puisque ses laquais eux-mêmes sont titrés. » « Pardonnez-moi, mon cher monsieur, c'est votre air qui m'aura trompé. »« Vous ne m'avez pas offensé, dit simplement Lanterne. Mais laissons cela, j'allais justement souper, monsieur Cogolin. Et puisque vous avez gardé un si bon souvenir de notre première rencontre à l'office des Trois Monarques, faites-moi l'amitié de me tenir compagnie à table, ce soir encore. »« Je le savais bien, s'écria Cogolin. Plaît-il ? Fit Lanterne. « Rien, c'est un cri du cœur. De temps à autre, il faut que mon cœur crie quelque chose. Je sors de table, mon cher de Lanterne, mais pour le plaisir et l'honneur d'être votre commensal, ma foi, je souperai deux fois de suite. »« Moi, dit Lanterne, un soir, j'ai soupé trois fois. Je vous raconterai cela à table, car j'aime les récits de beaux faits d'armes. »« Peste, vous m'en faites venir l'eau à la bouche. Mais sans indiscrétion, « Où souperons-nous, s'il vous plaît? Est-ce à l'office de M. de Saint-Mars ?»« Non, dit Lanterne, qui, depuis quelques minutes, s'était remise en route. Ce soir, je suis en mission, et c'est même pour cela que je soupe si tard, ce qui est tout à fait contre mes habitudes. Je ne sais si vous êtes comme moi, mais j'aime la régularité des repas. »« Et moi donc, je l'adore la régularité, mais la coquine ne peut me sentir. » « Ce sera donc en quelque taverne que nous souperons, » ajouta Cogolin très inquiet. « Mais tous les bouchons sont fermés. »« Oui, dit Lanterne, mais la rôtisserie où nous allons s'ouvrira pour moi, monsieur Cogolin. Nous souperons à la Sarcelle d'Or, dans la rue des Barrés. » Cogolin sursauta. « Oh » pensa-t-il, « est-ce que ceci serait la suite de l'aventure que j'ai eue avec le sieur Lafemas ?»« La rue des Barrés, » reprit-il, « est-ce loin ?» C'est que je ne connais pas Paris comme vous, moi. Il est de fait que je connais Paris. Voici près de moi déjà que j'y suis, car vous saurez que, parmi 50 serviteurs, c'est moi que le vieux marquis a choisi pour venir à Paris avec son fils, mon maître. Mais nous arrivons. En effet, quelques minutes plus tard, Lanterne frappait à la porte de la Sarcelle d'Or, et, selon sa promesse, non seulement cette porte s'ouvrit, mais encore l'hôtesse, qui paraissait l'attendre, lui désigna une table et lui demanda ce qu'il voulait boire. « Boire et manger, dit Lanterne, car j'ai faim et soif. Et voici monsieur qui est comme moi. » Cogolin ouvrait les yeux et les oreilles. Cependant, tout en se demandant ce qu'il allait apprendre de nouveau en cette soirée, il ne perdait pas de vue qu'il était là surtout pour dîner. « Que mangerions-nous bien ?» demanda Lanterne en s'asseyant en face de Cogolin, qui, déjà, avait pris position. « Que dites-vous d'un de ces poulets froids que je vois alignés là ?»« Dame Léonarde !»« Bon, se dit Cogolin, le drôle est déjà venu ici. Donnez-nous donc un de vos poulets avec deux bonnes bouteilles de votre vin de Suresnes. Ce nous sera un souper convenable. »« Ah, monsieur de Lanterne !» dit Cogolin. Lanterne leva vers l'hôtesse ses gros yeux de ruminant, comme pour lui confirmer que c'était bien lui qu'on appelait ainsi. « On voit que vous avez des goûts de grand seigneur. Un poulet froid et deux bouteilles de Suresnes, peste !»« Dame Léonarde, fit Lanterne qui enflait d'orgueil, vous joindrez au poulet une ou deux tranches de ce jambon, et au lieu de votre Suresnes, qui est quelque peu aigre, vous nous donnerez trois bouteilles des côtes de Mâcon. » « Du jambon et du mâcon !» s'écria Cogolin. « Diable ! Décidément, il n'y a que les gens de qualité pour savoir manger et boire. Moi, j'eusse demandé du fromage et de la piquette. Ah, monsieur de Lanterne, jamais je n'oserais me nourrir de ces choses destinées au palais raffiné. » « Gens de qualité !» murmura Lanterne. « Bah ! Fit-il avec bienveillance, nous sommes ainsi, nous autres. Dame Léonarde, ajouta-t-il en jetant à Cogolin un regard destiné à l'achever de stupeur admirative, « Vous nous donnerez un peu de ce pâté que je vois sur ce dressoir. Vous y joindrez ce gâteau de riz au lait et au lieu de votre vin rouge, qui est un peu bien grossier, vous nous donnerez 4 bouteilles de vin d'Anjou. » Une heure plus tard, Cogolin en était à insinuer que Lanterne pourrait bien être un duc déguisé. À ce moment, 6 bouteilles vides attestaient la magnificence de Lanterne, qui d'ailleurs était parfaitement ivre, vu que sur les 6 bouteilles, son hôte lui en avait fait boire 5 et proposait à Cogolin de le prendre à son service. Cogolin, qui était rassasié au point de pouvoir défier un jeûne de 3 jours, car il possédait un estomac qui, comme celui de certains carnassiers, se pliait à toutes les circonstances, déclina cette offre et se mit à appeler son hôte Lanterne tout court. Lanterne, précipité du haut de sa grandeur éphémère, allait demander à Cogolin les causes de ce manque de respect qui lui mettait les larmes aux yeux. Lorsque la porte s'ouvrit, un homme entra qui, lui aussi, avait l'allure d'un laquais de bonne maison. « Bonsoir, Bourgogne, bonsoir !» bégaya Lanterne. L'homme, sans faire attention à Cogolin, qu'il prit sans doute pour quelque serviteur de Saint-Marc, se pencha sur Lanterne et lui murmura « Tu diras à monsieur le marquis que c'est pour demain à 5 heures du soir. Voici la clé de la petite porte que monseigneur lui envoie. » Puis l'homme se retira aussi rapidement qu'il était entré, tandis que Lanterne, tout ivre qu'il était, mettait soigneusement la clé dans la poche de sa jaquette. Si bas qu'eût parlé Bourgogne, Cogolin avait entendu. « Que va-t-il se passer demain à 5 heures du soir? Qu'est-ce que cette clé » murmura-t-il. « Monsieur de Lanterne !»« Mon ami, » fit Lanterne, qui, en s'entendant de nouveau anoblir, essuya ses yeux, qui pleuraient du vin et de la vanité tout ensemble. « Monsieur de Lanterne, voici qu'il se fait tard. Si vous le permettez, je vous escorterai jusqu'à votre logis et vous prêterai l'appui de mon épaule, car il ne convient pas qu'un homme comme vous aille seul par les rues à pareille heure. » « Tu as raison, mon ami, » bégaya Lanterne, qui se leva en trébuchant. « Au surplus, ma mission est terminée. Viens, Cogolin. Adieu, dame Léonarde. » « Jusqu'à vous revoir, monsieur de Lanterne !» fit l'hôtesse, qui avait suivi d'un œil amusé toute la manœuvre de Cogolin et esquissa une révérence. Cogolin écarquilla les yeux et admira la commère. Lanterne demeura majestueux et se dirigea vers la porte avec cette rectitude impeccable et raide de l'ivrogne qui sait parfaitement que le plus léger écart lui est momentanément défendu. Ainsi, dit Cogolin lorsqu'ils furent dans la rue, Lanterne s'appuyant sur l'épaule qui lui tendait avec respect, « Ainsi, vous étiez ce soir chargé d'une mission importante. La chose ne m'étonne pas, car vous devez être diplomate. Et c'est pourquoi on vous a confié la mission de répéter à monsieur le marquis de Saint-Marc que la chose se fera demain soir à 5 heures. » Parfaitement, Bourgogne l'a dit. « À 5 heures. » « Mais j'y pense, mon ami, si on signe le contrat notarié demain soir. »« Diable, » songea Cogolin, « un contrat ?» Lanterne s'arrêta. C'était simplement parce que les mots éprouvaient une certaine difficulté à sortir. Cogolin ouvrait des oreilles, entonnait tous les secrets de Paris. « Parbleu, » fit-il, « si on signe le contrat notarié, c'est que le mariage aura lieu bientôt, hein ?» « Bientôt, » ricana Lanterne. « Ha ha! Voyez donc les maisons qui dansent !»« C'est pour le mariage, » dit Cogolin. « Bientôt, » reprit Lanterne en s'accrochant à son ami avec l'obstination de l'ivresse. « On voit bien que tu n'es guère diplomate, mon ami. À 5 heures, le contrat. À 6 heures, la bénédiction du prêtre. Voilà. Voilà. Peste, que voilà qui est diplomate et seigneurial. Et vous assisterez au mariage, monsieur de Lanterne. Sûrement, le futur époux ne voudra pas se passer de vous en cette circonstance. » Lanterne s'assit par terre et se cramponna des deux mains à la chaussée fangeuse. « Parbleu, » fit-il sévèrement, « il ne manquerait plus que cela, que monsieur de Saint-Marc se marie sans que je sois à l'office. » « Oh, oh !» tressaillit Cogolin. « Je te disais donc, que puisque le mariage a lieu demain, il y aura ripaille. Un mariage sans ripaille n'est plus un mariage. Et alors, je t'invite. Cogolin, je veux que tu viennes. Mais je veux que devant Rimbaud, Bourgogne et toute cette valetaille d'Angoulême, tu... je... c'est-à-dire... Je vous donnerai tous vos titres, soyez tranquille, monsieur de Lanterne. Cogolin, embrasse-moi, sanglota Lanterne. Demain, fit Cogolin, demain, devant la fiancée qui doit être joliment attifée et avenante, hein? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu mademoiselle Gisèle. Cogolin, qui s'était accroupi pour recueillir le secret qu'il arrachait bribe par bribe, se redressa comme si un ressort l'eût poussé. Il baissa la tête et murmura « Pauvre monsieur de Capestan, ma foi, j'eusse autant aimé ne pas savoir, et ce n'est pas moi qui lui apprendrai cette triste nouvelle. Il serait capable de m'arracher la langue. » « Cogolin, mugit Lanterne, ne m'abandonne pas, mon ami !» « Non, non, fit Cogolin qui aida son amphitryon à se relever, soit qu'il crût avoir encore quelque chose à en tirer, soit simplement par reconnaissance pour le bon dîner qu'il venait de faire. « Là, tenez-vous bien à mon épaule, en route. Mais dites donc, puisque vous m'invitez à la ripaille, où dois-je venir ?»« Parbleu, dit Lanterne en éclatant de rire, si nous entrions tout de suite, nous serions tout portés pour demain. » Entrons. Mais où ? Là, dit Lanterne, qui, après deux ou trois tentatives, parvint à désigner de son bras étendu l'une des maisons de la rue des Barrets. C'est là que s'est arrêté le carrosse qui suivait la Femasse. Tout est limpide maintenant. Ah, pauvre chevalier de Capestan, quel sang et massacre tu vas rugir ! Entrons, dit résolument Lanterne, j'ai la clé de la petite porte. « Donnez, je vais ouvrir, » dit Cogolin sans le moindre scrupule, « nous devons le déclarer. » Quelques minutes se passèrent, pendant lesquelles Lanterne cherchait la clé que lui avait remise le laquais du duc d'Angoulême. Cogolin se mit à l'aider et l'aida si bien qu'en un instant, la clé passa dans sa poche sans que Lanterne s'en fût aperçue. « Il faut que vous ayez perdu cette clé, » reprit alors Cogolin. Au surplus, croyez-moi, mieux vaut rentrer chez vous. Vous n'en serez que plus dispo demain pour la grande ripaille. Où demeure votre maître ? Rue Saint-Antoine, à côté des filles de la Croix, bredouilla Lanterne qui se laissa emmener. Bientôt, ils arrivèrent au point indiqué qui se trouvait à 2 minutes de la rue des Barrets. Cogolin heurta à la porte basse qui s'ouvrit. Lanterne voulut absolument le serrer dans ses bras. « Ah, demain, mon digne ami » balbutia-t-il en s'essuyant ses gros yeux. « Oui, à demain ou à un autre jour. » Comme Lanterne allait de son pas majestueux franchir la porte, Cogolin le retint par le bras. « Voulez-vous que je vous donne un conseil pour finir dignement cette soirée ?»« Parle, Cogolin, parle, mon seul ami !» Tu as acquis le droit de me conseiller. » Lanterne se pencha et mit sa main en coque derrière l'oreille pour mieux entendre. « Mon brave camarade, dit Cogolin, écoute et retiens bien ceci. À l'avenir, défie-toi des gens qui t'appelleront Monsieur de Lanterne. Partout où il y a un sot qu'on flagorne et un homme d'esprit qui flagorne, sois-en sûr, c'est le flagorné qui paie et le flagorneur qui s'engraisse. » Adieu, Lanterne.